Mondial Sport. Martin Guèze.
Mondial Sport, pas de panique à bord, du basket d'abord et la qualification pour le Mondial qui tend les bras à la Côte d'Ivoire. Du football ensuite, le PSG était en piste face à Monaco sous les yeux de Thomas de Saint-Léger. Le PSG qui trouvera plus tard sur sa route le Maccabi Haïfa d'Ali Mohamed. On ira à la rencontre de ce milieu de terrain qui sera le premier international nigérien à disputer la Ligue des Champions. Enfin, point sur les qualifications du CHAN, la RDC très bien partie pour rallier l'Algérie l'an prochain. Et puis on rendra visite à Cyril Gane dans son octogone, on prendra des nouvelles des volleyeurs camerounais. Avant de finir sur les pentes du Mont Blanc, sur les pas de Kylian Jornet, vainqueur du célèbre Ultra Trail autour du toit de l'Europe. Un mondial sport tout terrain qu'on attaque en pente douce sur les parquets ivoiriens. On ne fait pas durer le suspense plus longtemps, la Côte d'Ivoire à pas d'éléphant se qualifie pour le Mondial pour la 5e fois. Les Ivoiriens disputeront la Coupe du Monde l'an prochain en Asie du Sud-Est. 9e match, 9e victoire en qualification pour la Côte d'Ivoire. Vainqueur du Cap-Vert ce soir au Palais des Sports de Trècheville sous les yeux de notre correspondant Mohamed Lamine. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Martin.
Alors les Ivoiriens qui ont eu très chaud mais qui l'emportent finalement 77 à 69 et c'est bien là l'essentiel.
Effectivement, c'est l'essentiel, Martin. Les Ivoiriens avaient, dans un premier temps, largement dominé les Cap-Verdiens. À l'issue donc, des deux premiers quart-temps, il y avait 39 contre 22. Mais au retour donc, à la reprise, il y a eu un relâchement qui a fait que les Cap-Verdiens sont revenus à la charge, ont remonté le score jusqu'à un certain niveau critique. Donc, ils ont effectivement fait peur. Mais les éléphants se sont ressaisis très vite et ont finalement dominé les Cap-Verdiens sur le score de 77 à 69, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il faut dire que l'effectif de Côte d'Ivoire constitué de Solo Diabaté avec ses dribbles et ses techniques, Maxence Dadi également, et également Alexander Potires avec ses rebonds. Tout ceci dans une ambiance de feu ici au Palais des Sports de Trècheville a poussé donc les éléphants à rester donc sur cette série d'invincibilité qui les éléphants engrangent donc depuis maintenant 9 matchs.
Exactement, vous l'évoquiez Mohamed, le bon match de Solo Diabaté, le meneur, les Ivoiriens sont ravis. Solo Diabaté que vous avez pu justement rencontrer Mohamed à la fin du match.
Cette qualification, je pense que c'est mérité. On s'est bien battu à l'entraînement pendant 3 semaines et c'est la continuité de ce que les gars ils ont fait le mois dernier. Donc voilà, on est très content de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en plus, en Côte d'Ivoire, devant notre public, je pense qu'on a mis le basket ivoirien à un certain niveau et j'espère que ça ne descendra plus. C'est incroyable. Si on peut avoir des compétitions souvent en Côte d'Ivoire ici, ce serait vraiment bien pour nous-mêmes, pour le basket et pour tous les fans de basket. Ceux qui ne connaissent pas le basket, même qui aiment le foot, ça permet de découvrir. L'ambiance, elle était incroyable.
Voilà, une ambiance incroyable, Mohamed Solo Diabaté qui saluait le public, venu nombreux, et parmi eux, Ludovic, votre voisin du soir, je crois savoir Mohamed.
On a très très bien joué, on a été surtout bon défensivement, en attaque aussi on a été pas mal, et je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire pour la suite. Si on continue sur cette lancée, ça va être, je compte pas sur la finale, mais on va prouver au moins au monde entier qu'on est meilleur.
Voilà les Ivoiriens confiants qui espèrent même une finale, en tout cas les revoilà au Mondial comme en 2019 en Chine. Est-ce que Mohamed, ces éléphants-là, sont-ils armés pour le gratin mondial?
Oh, le gratin mondial, on verra bien, mais je ne veux pas être aussi optimiste comme Zamba Camara, l'un des joueurs de Côte d'Ivoire qui dit que la Côte d'Ivoire va remporter cette Coupe du Monde, pas jusqu'à ce point. Mais l'effectif de Côte d'Ivoire a quand même de grands joueurs. Il faut dire que pendant cette fenêtre, il y avait quand même pas mal d'absences. Notamment celle de Nisri Zouzoua, blessé, et d'Assemi Amoularé qui n'a pas pu se libérer, et de Matt Costello. Si ces joueurs-là signent leur retour, en plus de ceux qui sont déjà là, l'ossature qui est déjà là, il faut dire aussi qu'il est annoncé la venue de Mo Bamba, donc un pivot du Magic d'Orlando qui évolue en NBA aux États-Unis. Donc lui, il est d'origine ivoirienne, donc il va avoir accès à l'équipe nationale pour les prochaines compétitions. Donc on va dire que la sélection ivoirienne est quand même assez étoffée et va s'étoffer davantage. Et même si elle ne remporte pas la Coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pourrait faire quand même honneur aux Ivoiriens, je pense.
Et bien merci beaucoup, Mohamed Lamine. On vous laisse avant que les lumières du Palais des Sports de Trècheville ne s'éteignent. On vous remercie. Et puis nous, on va laisser le basket, on va passer au football. Place au foot comme promis et aux pelouses européennes. On file tout de suite au Parc des Princes où le PSG affrontait Monaco ce soir pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 sous les yeux de Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martin.
Alors vous assistiez pour nous à ce match, ce choc PSG Monaco, première affiche, première accro aussi pour les Parisiens qui ont laissé quelques points en route.
Et oui, première fois de la saison qu'ils laissent des points de côté, les joueurs de Christophe Galtier, tenus en échec ici au Parc des Princes par Monaco, un but partout, et c'est assez logique au vu de l'ensemble de la rencontre, on va dire, une rencontre démarrée pied au plancher par les Monégasques, les visiteurs, les joueurs du Rocher, tout de suite très agressifs joueurs, leur pressing a fait déjouer ce PSG, et c'est assez logiquement qu'en milieu de première période, Kevin Volland, l'Allemand, a ouvert le score sur un service d'Alexander Golovin. Ensuite, bien sûr, les Parisiens se sont un petit peu révoltés. Ils ont essayé de se réveiller, poussés bien sûr par leur public du Parc des Princes. Il y a eu deux très grosses occasions, coup sur coup, de poteau, de Messi, puis de Mbappé. Mais c'est en seconde période, finalement, qu'ils sont revenus au score sur un pénalty de Neymar. Bien sûr, pas de penalty gate cette fois-ci. Kylian Mbappé a laissé le Brésilien transformer cette sentence. Et puis derrière, de nouvelles grosses occasions, un poteau d'Hakimi, un duel manqué par Mbappé. Deuxième période, vous l'avez compris, largement à l'avantage des Parisiens, mais score de parité logique au vu de l'ensemble du match, on va dire.
Alors, il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit. Les Parisiens sont leaders à 10 points, à égalité avec Marseille et Lens. Mais est-ce qu'elle a de quoi inquiéter, non pas cette défaite, mais ce match nul?
Un petit peu, Martin, parce que c'était le premier très gros test pour le PSG. Alors bien sûr, Lille était champion de France il y a 2 ans de ça maintenant. Et Lille a été balayé 7-1 dimanche dernier. Mais Lille n'est plus l'équipe qu'on a connue ces dernières saisons. Monaco, c'était en cela le premier gros test. Monaco 3e la saison passée, un effectif 4 étoiles et demie, on va dire, si le PSG est un effectif 5 étoiles. Et donc un pari qui était attendu face à l'un des autres cadors du championnat. Et un pari qui a été, je vous le racontais tout à l'heure, dépassé vraiment en première période, surtout au milieu de terrain avec côté monégasque, hein, Mohamed Camara, le Malien qui fêtait sa première titularisation, qui a été vraiment énorme dans l'entrejeu, et à l'inverse des Parisiens qui ont paru un petit peu perdus au milieu avec le trio d'attaque beaucoup moins inspiré que lors de ces dernières sorties. Pendant 45 minutes, on n'a pratiquement pas vu Messi, Neymar ou Kylian Mbappé.
Voilà, un peu moins énorme que Mohamed Camara, vous venez de le citer. Kylian Mbappé, un homme dans le match qui a à peu près tout raté ce soir.
Oui, c'est vrai, Martin, il a un petit peu tout raté aujourd'hui, Kylian Mbappé. Est-ce qu'il était troublé? Je ne sais pas. En tout cas, à chaque fois qu'il a eu à conclure les actions, il s'est montré maladroit, le champion du monde. D'abord, ce poteau en première période, il aurait pu franchement faire mieux, même si la balle lui arrive assez vite. Ensuite, une tête smatchée, un petit peu ratée en fin de match face au but de Nobel, et un duel surtout manqué face au gardien allemand, Mbappé, qu'on a connu plus inspiré dans la conclusion de ses actions, même s'il a paru en jambes, et c'est peut-être le plus important en vue des prochaines échéances du PSG.
Eh bien, merci beaucoup Thomas de Saint-Léger en direct du Parc des Princes aux côtés d'un certain Alejandro Valente qu'on salue forcément bien bas. Après 4 matchs, Paris est leader avec 10 points à égalité avec l'Olympique de Marseille, vainqueur 3-0 de Nice, et avec Lens qui a battu Rennes 2-1 avec un but fabuleux de l'Ivoirien Seko Fofana. Passement de jambe, frappe en pleine lucarne. Il faut absolument aller voir ça. Très content, forcément, Seko Fofana. Et nous, à présent, on va parler d'un autre homme très très content.
C'est le rêve de toute la joie, non? Pour jouer dans cette compétition. Et ouais, c'est bon. Pour moi, je suis content parce que c'est mon première fois.
Un homme heureux, Ali Mohamed, le milieu du Maccabi Haïfa, est un pionnier, ce qui pourrait devenir le mardi 6 septembre à Lisbonne face au Benfica, le tout premier Nigérien à disputer la Ligue des Champions. L'international aux 39 sélections a été formé à l'AS FAN de Niamey avant de faire carrière en Israël. Double buteur face à l'Apollon Limassol en tour préliminaire, il a encore été titulaire face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour la qualification des siens en barrage. Le joueur de 26 ans qui affrontera aussi le PSG et la Juventus Turin fait la fierté de son pays et de son sélectionneur Jean-Michel Cavalli, qui espère qu'un bonheur n'arrive jamais seul et qu'ils se qualifieront ensemble pour une troisième CAN avec le Niger, que les Antilopes du désert, le MENA national, n'a plus disputé depuis 2013. Jean-Michel Cavalli qui s'est prêté au jeu de de l'interview répondeur sur Mondial Sport.
Bonjour, Jean-Michel Cavalli, sélectionneur du MENA, du Niger, depuis 2 ans maintenant. Oui, bien en fait, Mohamed Ali est un joueur que j'ai eu en sélection. Il est évident que c'est toujours très intéressant d'avoir des joueurs qui évoluent en Champions League. Mais on en a un deuxième qui était là l'année dernière avec Sheriff, qui malheureusement, la veille du Real de Madrid, s'était blessé. Il a eu une méchante blessure, Moumouni, qui rejoint à peine les rangs du Sheriff là. Voilà, donc ça nous fait 2 joueurs maintenant dans cette catégorie-là, et c'est toujours très très bon pour une sélection. C'est un technicien qui est surtout attiré par l'attaque. Je l'ai observé contre l'Étoile Rouge du Belgrade. Et c'est un garçon qui techniquement a surtout le jeu juste. Il est très bon en passe courte, il est très bon en relais. Oui, non, je l'ai eu quand même une bonne dizaine de fois. Hein. Il a un peu plus de mal sur le plan défensif. Bon, maintenant, jouant à ce niveau-là, où on demande beaucoup d'exigences, la compétition aidant, je pense que ça viendra naturellement. À ce moment-là, je pense que ça pourra devenir un très 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 bon joueur. J'ai déjà prévu avec mon président d'aller le voir au Parc des Princes. Ça sera l'occasion de le voir évoluer. C'est vrai que c'est une fierté pour nous quand même. J'espère qu'il fera des très grands matchs afin qu'il puisse donner espoir à beaucoup de Nigériens et montrer la voie à suivre pour réussir à ce niveau-là et montrer que rien n'était impossible. Ce n'est pas une sélection qui est exposée. Mohamed Ali, quoi qu'il en soit, avec Moumouni qui va reprendre et qui, lui, cette année, sera en Europa League, sera quand même des fers de lance. Il est évident que l'abondance de biens ne nuit pas. Hein. Maintenant, Mohamed a tout pour réussir. Hein, je vous dis, c'est un garçon qui a du talent hein, à la base. Et ce qui manque à certains joueurs du Niger, c'était de trouver justement le haut niveau et se rendre compte des exigences du football. On veut absolument faire cette CAN et pour lui faire la Champions League et en même temps se qualifier en fin de saison pour la CAN, je pense que ça restera une très très grosse année dans sa carrière. Il découvrira d'autres émotions. Le groupe n'est pas facile et ce sont des clubs qui, eux, sont dans l'obligation d'être dans le carré d'as et pour certaines peut-être de la gagner. Donc il va vivre des grandes émotions en jouant à l'extérieur. Donc on souhaite tous le bonheur à tout le monde, aussi bien à Mohamed Ali, à Moumouni qu'à tous nos autres joueurs. Et puis ça ne peut faire que du bien à toute cette jeunesse. À très bientôt, merci.
Jean-Michel Cavalli qui se rendra au Parc des Princes le 25 octobre prochain pour voir Ali Mohamed et le Maccabi Haïfa jouer contre le PSG. Nul doute que RFI y sera aussi.
Ok, je chante pour le championnat d'Afrique des Nations. Le chant c'est au Cameroun, le chant c'est au Cameroun, le chant c'est au Cameroun. Viens kiffer mon frère, fais pas trop des mimba, le chant c'est au Cameroun.
Le CHAN, ce n'est plus au Cameroun, le pays qui a accueilli la compétition l'an passé, remporté par le Maroc. Et l'an prochain, c'est l'Algérie qui reçoit. Algériens, Marocains, Libyens sont déjà qualifiés. Pour le reste, on fait le point avec Simon Bourtembourg. Bonsoir Simon.
Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous.
Alors ce week-end, on jouait les matchs allés. On est donc à la moitié du chemin vers le CHAN 2023. Pas de score fleuve, mais certains ont déjà pris une option.
Oui, et dans les matchs du jour, c'est notamment le cas de la RDC. À Yaoundé, les Congolais se sont imposés 2-1 face au Tchad, sous les yeux du sélectionneur national Sébastien De Sabre, qui s'était déplacé pour l'occasion. Les Léopards locaux sont apparus un peu émoussés. Malgré la victoire, le coach congolais Otis Goma se montre critique, notamment sur le retard de son équipe d'un point de vue physique.
Quand un championnat ne joue pas pendant plus de 7-8 mois, il n'y a pas de rythme. Quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Il y a une pression constante des Tchadiens et ça nous a fait reculer. Je crois que l'équipe a cédé un petit peu, il fallait procéder des méthodes de changement pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne.
Otis Goma sévère avec ses joueurs au micro de Joël Wadem. Victoire tout de même 2-1 pour les Congolais, déjà deux fois vainqueurs du Chan, c'était en 2009 et en 2016.
La RDC perfectionniste mais qui fait donc un grand pas vers l'Algérie avant le match retour. La Centrafrique aussi puisque les fauves locaux ont battu le Congo à Brazzaville 2-1.
Oui, belle option pour les Centrafricains qui visent une première participation au Chan. Mais malgré la victoire 2-1, Raoul Savoie, le sélectionneur de la Centrafrique, se projette déjà sur le match retour. Écoutez-le au micro de Jean-Ruffin Louemba.
On est à la moitié du chemin, on mène au score 2-1, c'est dommage ce pénalty qu'on encaisse qui nous met un peu dans la difficulté au niveau du score, mais maintenant les Congolais et nous-mêmes, on se connaît un peu mieux, donc le deuxième match sera un peu plus serré sans doute parce que comme on se maîtrise un petit peu maintenant et ça sera à celui qui sera le meilleur dans cette deuxième mi-temps.
La manche retour, tous les sélectionneurs en parlent déjà. C'est aussi le cas de ceux qui aborderont leur match en septembre avec un handicap. Le Niger notamment qui s'est incliné face au Togo sur le score de 1-0. Déçu après la prestation de ses joueurs, Haruna Douala, le sélectionneur nigérien, met le cap lui sur la prochaine rencontre.
On a vu un match plein des deux côtés. En attaque, on n'a pas su exploiter les quelques rares occasions ou les quelques ballons qu'on a pu avoir aux abords de la surface de réparation. Mais à nous maintenant de relever le défi dans une semaine. On va se préparer pour remonter cet handicap.
Haruna Doula au micro de Comelan Eklou. Et dans les autres matchs du jour, le Cameroun s'est imposé 1-0 face à la Guinée équatoriale. Le Ghana et l'Angola l'ont apporté 2-0 respectivement contre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Hier, cette fois, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont quittés sur le score de 0-0. Tout reste donc à faire. Et le Sénégal s'est par contre imposé face à la Guinée 2-1. Même résultat entre le Mali finaliste du dernier Chan et la Sierra Leone.
Allez, merci beaucoup Simon Bourtambour. On vous retrouve dans l'octogone peut-être ?
C'est ça, tout à fait. Sans règles, sans arbitre.
Exactement, nous on défile tout de suite. Oh là là, un octogone sans règles. Oh là là, un octogone sans règles. Oh là là, un octogone sans règles. N'importe quel polygone sans règles. Oh là là. Pas d'arbitre, pas de règles.
Un octogone sans règles et en France, mesdames, messieurs, c'est dans cette arène à 8 angles que se pratique le MMA, un sport de combat en plein essor. Et la plus grande ligue mondiale, l'UFC, pose ses valises à Paris la semaine prochaine. Les billets sont partis comme des petits pains, notamment pour venir voir le français Cyril Gane, celui qu'on appelle Bon Gamin, a perdu face au Camerounais Francis Ngannou en janvier. Il affrontera cette fois l'Australien Tai Tuivasa. Cyril Gane, à qui notre reporter intrépide Victor Bisistrano a rendu une petite visite dans son octogone. On s'accroche.
Deux combattants se relaient dans la cage pour faire face à Cyril Gane, 3 minutes chacun. Des rounds de 6 minutes sans répit pour Gane contre 5 habituellement. Objectif, puiser profondément dans ses ressources afin d'être prêt le jour J, jour de cette première à domicile dont il attend beaucoup.
C'est quelque chose que je n'ai pas encore vécu émotionnellement. J'ai déjà fait des choses émotionnellement qui sont montées très haut, face à Francis par exemple pour la ceinture. Je sais ce que c'est les grands jours. Mais celui-là est quand même différent parce que c'est chez moi, c'est avec la famille, les amis, les fans. C'est quelque chose qui sera gravé à jamais. Premier événement à Paris, Gane vs Tuivasa. J'ai marqué un peu l'histoire du MMA français aussi, encore un peu avec cette touche-là. Quoi.
Rien n'était écrit pour ce colosse de près de 2 mètres, toujours souriant en dehors de la cage. Cyril Gane, 32 ans, est un surdoué. Il débute le sport de combat il y a 8 ans, le MMA seulement 4 ans, et se propulse au plus haut niveau mondial. Il combat pour le titre en janvier dernier et s'incline de justesse contre le champion, le Camerounais Francis Ngannou.
C'est une défaite, mais on était à pas grand-chose. Il y avait largement moyen, c'est-à-dire que Francis a fait un meilleur combat que moi. Il n'était pas meilleur que moi. Il a fait les meilleurs choix au bon moment et ça, c'est l'expérience, je pense. Mais si j'avais fait le match parfait, je pense que moi, j'aurais gagné. Et aujourd'hui, je sais que je vais retourner chercher la ceinture. Je sais que c'est mon but ultime. C'est pour ça que dès maintenant, dans les entraînements à court terme, on fait ce qu'il y a à faire pour sentir qu'il va y avoir du progrès.
Il faut lui mettre le bras tendu encore, le bras arrière encore et voilà. On repart debout, monsieur.
Fernand Lopez supervise les séances. C'est l'entraîneur camerounais, bluffé par l'intelligence et le potentiel de Cyril Gane, qui l'a poussé à faire du MMA.
En 4 ans, on n'a pas eu un désaccord, pas une dispute. Et pourtant, je ne suis pas facile à vivre. Ça vous dit comment il est facile à vivre. Maintenant, il y a des choses, quand on veut la perfection, quand on sait ce que ça demande le haut niveau, il y a des choses, il faut aller le titiller. Il est flemmard, comme tous les génies, c'est un flemmard. Il n'aime pas, il ne fait pas un effort. C'est que le strict minimum nécessaire pour gagner. Et donc, il faut le pousser un peu plus. Là, par exemple, sur cette préparation, je lui demande de s'épuiser.
J'aimerais bien terminer le combat avant la fin. Donc c'est pour ça qu'on a, un peu aussi tiré l'entraînement vers la condition physique.
Car Cyril Gane veut faire plaisir au public et à ses fans de plus en plus nombreux. Celui qu'on surnomme Bon Gamin est très sollicité et tente de s'y accommoder.
C'est aussi gratifiant pour moi, c'est aussi satisfaisant. Ça me surprend même des fois, tu vois. Dans les quatre coins du monde et tout, il y a forcément un petit gars qui va connaître un peu les MMA et tout et qui va reconnaître ma tête. Donc c'est cool, tu vois. Tu te dis, bon, ben, j'ai réussi quelque chose quand même dans mon sport.
Derrière cette popularité s'entrevoit celle du MMA, sport interdit en France jusqu'en 2020.
Ça n'existe pas, un sport qui a évolué aussi vite. Aujourd'hui, l'UFC, très clairement, est une machine de guerre. Un ascenseur social inégalable. Quand tu vois un gars comme Francis, qui a passé l'Atlantique, qui se retrouve en quelques années l'homme le plus fort du monde.
Un statut dont Cyril Gane continue de rêver, sa marge de progression semble sans limite.
Cyril Gane, en plein progrès, qu'on retrouvera le week-end prochain dans Mondial Sport, combat à suivre samedi 3 septembre. Loin de l'octogone, retour sur les parquets, ceux de volley à présent pour le mondial qui se dispute en ce moment en Slovénie et en Pologne. Ça se passe à Ljubljana pour les Lions du Cameroun notamment, et ça ne se passe pas très bien pour l'instant. Malgré trois manches accrochées, les vice-champions d'Afrique ont perdu face au pays hôte slovène vendredi, avant une nouvelle défaite aujourd'hui face à l'Allemagne, 3-0 à chaque fois. Il reste un match de poule au Camerounais, mardi, face aux champions olympiques français, un groupe très relevé mais qui permet aux jeunes joueurs de Guy Roger Nenga d'engranger de l'expérience, eux qui disputent leur quatrième mondial de suite. Entretien avec l'entraîneur Guy Roger Nenga.
Nous, la seule compétition que nous jouons de façon plus régulière, c'est le championnat du monde. Et vous voyez que le championnat du monde s'appelle les 4 ans. Donc, or, les autres nations, elles jouent pratiquement la VNL chaque année. Donc, c'est sûr que par rapport à ces nations de volley, la France, l'Allemagne, la Slovénie, sur le plan, on va dire, technique, voire mental, il y a une grosse différence, quoi. Mais, ceci dit, nous ne baissons pas la garde, nous continuons à espérer qu'un jour, nous arriverons à bien replanter la nation camerounaise et y compris le continent africain de très belle manière.
Justement, vous sentez qu'elle est en progression, cette équipe, voilà, quatrième participation consécutive. Vous avez terminé notamment 13e en 2013. Voilà, il y a quand même quelques résultats, quelques matchs gagnés au niveau mondial. C'est une équipe qui s'installe petit à petit.
Et maintenant, après l'équipe nationale du Cameroun actuelle, elle est en pleine révolution parce que nous intégrons maintenant plus les jeunes, dont l'équipe totalement en reconstruction. Là, nous sommes venus au championnat du monde, pratiquement avec que 4 ou 5 joueurs qui jouent à l'étranger. Tous les autres, c'est les joueurs qui jouent dans le championnat camerounais. Ce n'est pas la même chose. Ici, tous les joueurs que nous rencontrons, c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours. C'est leur métier, c'est leur profession. Donc, nous, tous les jeunes que nous avons au Cameroun, c'est des étudiants, élèves même, quelques-uns. Donc, vous voyez que le niveau va toujours être un peu plus différent, quoi.
Le grand public, justement, ne connaît pas forcément très bien votre équipe. Vous le dites avec beaucoup de jeunes Camerounais qui jouent au pays. Quelles sont les forces de cette sélection camerounaise ?
Pour l'instant, c'est l'attaque. Mais maintenant, au fond du jeu, il faut qu'on continue à la peaufiner pour arriver à rivaliser avec les autres nations. Parce que vous voyez que sur le plan technique, il faut avoir la capacité d'avoir un championnat régulier. Or, nous, au Cameroun, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Ça fait que, bon, tous nos jeunes, il nous faut à peu près 2 ou 3 mois de stage pour pouvoir arriver à élever le niveau des jeux sur le plan technique.
Vous vous trouvez dans une poule très relevée, Guy Roger Nenga, avec notamment l'équipe de France qui est championne olympique en titre. Comment est-ce que vous appréhendez ce rendez-vous face aux Bleus ?
Nous sommes certains, nous savons que c'est deux pays qui ont des histoires totalement différentes sur le plan du volleyball. Tout ce qui arrive, arrive. Donc nous ne partons pas vaincus. Hein. Oh, je ne sais pas si c'est une chance, mais je pense qu'ils prennent plaisir à jouer ce championnat.
Je voulais juste vous poser une petite question sur... Sur un certain joueur qui s'appelle Erwin Gapet, qui est dans le rang des Français, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est d'origine camerounaise, il a beaucoup de famille au Cameroun et il a d'ailleurs récemment déclaré qu'il voulait s'investir dans le développement du volley camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait de l'affronter ce joueur-là ?
Très heureux déjà qu'il ait déjà gardé d'abord ce lien affectif avec le Cameroun. Hier, avant le match, il est venu nous dire bonjour dans les vestiaires. Aujourd'hui, encore, on s'est rencontrés au gymnase d'entraînement. Il est venu aussi encore venir nous dire bonjour. Bon, ça nous fait plaisir de voir un compatriote. Bon, on va dire compatriote dans le sens qu'il y a d'origine camerounaise. Il est venu nous dire bonjour comme ça. Après, moi, je suis très heureux pour lui parce que c'est quand je jouais encore à Marty, que son papa était entraîneur à Cannes, je tue le souvenir quand il était encore, il avait quoi, 8 ans, hein, qu'il est venu rester chez moi pendant toute la journée. Je suis très content de le voir aujourd'hui à ce niveau.
Ah oui, vous le connaissez bien grâce à son papa ?
Ah oui, oui, oui. Mais je vous dis qu'il est venu chez moi quand j'ai joué à Martigues. Je suis un ancien joueur. Donc voilà, j'ai joué à Martigues, à Beauvais, donc Martigues, à Emploi. Donc oui, son papa est venu déposer un jeu chez moi. On est resté toute une journée ensemble avec Erwin.
C'est une histoire qui dure avec Erwin Guépette.
Mais il se rappelle juste un tout petit peu, parce que tout à l'heure, quand j'ai les photos qu'on avait faites à l'époque, ben, il m'arrivait au niveau de la hanche. Hein.
Eh ben, on espère que vous arriverez à son niveau, en tout cas vous aussi avec votre équipe, mardi contre l'équipe de France. Merci beaucoup, Guy Roger Nenga, d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.
Oui, France-Cameroun, ce sera donc mardi, les Français et Erwin Guépette qui ont renversé ce soir la Slovénie. Ils étaient menés, ils ont finalement gagné 3-7 à 2. Notez que côté africain, les Tunisiens, champions d'Afrique, ont bien débuté en disposant de Puerto Rico 3-7 à 0.
Regarde-la bien ta vallée, monsieur Mont-Blanc. Es-tu sûr de ne rien regretter, monsieur Mont-Blanc?
Il en a vu d'autres, monsieur Mont-Blanc, mais il a surtout vu beaucoup de monde ce week-end. 2300 mordus d'ultra-trail se sont élancés de Chamonix vendredi soir au pied du toit de l'Europe dans les Alpes françaises. Au programme, 171 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Si l'Espagnol Kylian Jornet a explosé le record en moins de 20 heures pour l'emporter une quatrième fois dans cette mecque de l'alpinisme, ce fut beaucoup moins facile pour les autres. Certains sont à peine arrivés ce dimanche soir. Une épreuve titanesque pour ces forçats des cimes qu'a suivi pour nous dès vendredi Simon Magny.
Il est 18h sur la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Autour de l'arche de départ, des milliers de personnes attendent que les coureurs s'élancent. Pour ceux qui sont amateurs comme Rémi et Eric, c'est la course de leur vie.
L'UTMB, on l'a toujours vu à la télé.
C'est vrai que c'est quand même la course la plus connue au monde, je pense. Donc c'est vrai que pour toute personne qui court, tout le monde rêve d'un jour pouvoir faire cette course. Quoi.
Mais pour passer du rêve au Mont Blanc, il faut en engranger des kilomètres. Dick vient de Grande-Bretagne, c'est son premier ultra-trail ici.
It takes a long time.
Cela prend beaucoup de temps, les jours sont longs, je vis en Grande-Bretagne, c'est plat comparé aux Alpes. Donc je fais des allers-retours sur les collines à côté de chez moi, c'est beaucoup d'organisation et de répétition.
Je pense qu'on se prépare sur des années.
Rémi aussi s'élance pour la première fois sur cette distance.
On ne se prépare pas sur plusieurs mois, c'est sur des années, on apprend à connaître son corps dans l'effort, à allonger les distances. Et puis je sais pas si on est vraiment prêt pour ce genre d'épreuve, mais il faut savoir gérer, et après c'est dans la tête. Hein.
Savoir gérer son allure, son hydratation, mais aussi ses arrêts. Certains partent pour plus de 40 heures, alors les ravitaillements sont obligatoires. Emeline s'occupe de son amie Catherine dans la zone d'assistance. Elle doit
l'accompagner moralement tout au long de ses 43 heures. Et son but, c'est de finir, et nous, on est là pour lui faire oublier les moments où ça va être un peu plus compliqué physiquement et moralement.
Catherine engloutit sa crème de marron. On vérifie si elle n'a pas mal aux pieds.
Ben, un autre
hein. Non, c'est bon.
C'est bon, t'es sûr? Des bâtons, tu regardes un autre.
Puis, elle repart. Loin devant, il y a ceux qui se battent pour les premières places, dont un qu'on appelle l'ultra-terrestre, Kylian Jornet, un Espagnol de 34 ans, qui veut aller chercher sa quatrième victoire. Après la première nuit, il a pris la tête de la course avec juste derrière un Français, Mathieu Blanchard. Les deux hommes sont au coude à coude, mais dans les derniers kilomètres, Kylian Jornet porte le coup fatal.
On sort ensemble de Valorcine, le dernier ravitaillement assisté. Et là, il m'a mis une boîte monumentale que je n'ai pas pu suivre.
L'Espagnol de 34 ans égale, en remportant son quatrième titre, le record du Français François Denne. Record surtout en réalisant le meilleur temps. 19h40 minutes et 30 secondes.
Et c'est sur cette nouvelle victoire de Kylian Jornet autour du Mont Blanc que se réfère Mondial Sport. Merci à nos deux chers pas du soir, ces messieurs Valentin Vaner et Laurent Philippot à la technique. Bonne nuit à tous, fête de Borel.
Y a pas de quoi fouetter un chat, non.